Agora Côte d'Azur présente Les Copains d'abord.
Bonsoir à tous, bienvenue pour la toute première émission Les Copains d'abord.
Bonsoir.
Une émission mensuelle que je qualifierais de sucré-salé, puisqu'au programme il y aura du sérieux et de l'humour. Pour cela, notre directeur d'antenne a recruté la crème de la crème, Simply the Best. Ça, c'est la version officielle pour appâter nos auditeurs.
Merci Xavier.
Pour ce qui est de la version officieuse, comment vous dire, vous avez faim, vous n'avez pas fait vos courses, vous ouvrez votre frigo, là vous dites, il n'y a rien qui va ensemble.
Ça arrive souvent.
Mais en mélangeant les yaourts, les cornichons et la moussaka de la veille, ça devrait nous faire un repas. Et bien, c'est un petit peu dans cet état d'esprit qu'on a monté l'équipe. Alors, sans plus tarder, laissez-moi maintenant vous présenter les copains et les copines qui m'accompagnent ce soir. Elle est la candeur et l'innocence même de cette équipe.
Oula, oh, oula. Oui.
Ce qui ne l'empêchera pas de nous balancer parfois des trucs bien dégueulasses. Elle est celle qui nous permet, de par sa jeunesse, d'avoir une équipe dont la moyenne d'âge est à peu près égale à 14 ans. C'est Laura. Bonsoir, Laura.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir, Laura.
Bonsoir,
tout le monde.
Salut.
Qu'est-ce que tu nous as préparé, toi, ce soir?
Alors, ce soir, je vous ai concocté un mets bien sympa qui rassemble les faits les plus insolites que j'ai pu relever.
Merveilleux, ben on a déjà hâte de découvrir.
Vas-y,
ça.
Ah, moi aussi.
Dépêche-toi.
Sans plus tarder, je passe au prochain copain. Il a côtoyé les plus grands, Arletty, Fernand Sardou, Jean Sablon, Jean Pince et des meilleurs, vous l'aurez compris. Il est surtout celui qui nous permet de toucher, enfin au sens figuré bien évidemment, même s'il fait bien ce qu'il veut. Le troisième, voire le quatrième âge, c'est le seigneur de l'émission, c'est un peu notre Louis Labro quant à nous, c'est David.
Alors voilà, comme nous sommes au pays de grâce, nous allons parler de Napoléon, puisqu'il a quand même tracé sa route par ici.
Vous avez à peu près
et on va apporter un peu d'aculture dans cette émission, je dis bien aculture.
Voilà, avec une version bien à toi.
Tout à fait.
Ok, super. Il est la classe incarnée, un doux mélange de Georges Clooney et d'Omar Sharif sans la moustache. Le charme oriental coule dans ses veines, mais pas que, puisque lors de sa dernière prise de sang, ils ont trouvé plus de traces de rosée piscine et de cacahuètes que de globules rouges. Il est une sommité sur grâce, c'est Hassen. Bonsoir Hassen.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Hassen.
Salut David et papy.
Qu'est-ce que tu vas nous faire toi ce soir?
Moi je reçois avec Carole, une star de la vie grassoise, une star de la vie sociale grassoise.
Donc, c'est notre star.
C'est notre star à nous, grassoise. Oui. Donc c'est Chantal Roux.
Oui.
On apprendra à la connaître tout à l'heure avec quelques petites questions. Version Lorraine. À tout à l'heure, Chantal.
Elle est ravie
d'être avec vous. Ravie, ravie.
Elle est le résultat d'un mélange au Thermomix de Brigitte Bardot, Sophie Fabry et Daniel Juppert, qui sont ses modèles depuis qu'elle est toute petite. Elle est également celle dont la responsabilité est grande, puisqu'elle a eu la douce folie de nous réunir pour vous divertir. C'est l'artiste de notre équipe, c'est Carole. Bonsoir, Carole.
Ouais,
bonsoir,
Carole.
Bonsoir, Carole.
Bah, du coup, on sait déjà ce que tu vas faire.
Exactement.
Puisqu'il a vendu la mèche.
Exactement. Mais c'est pas grave. On va se partager des petites questions. Ça va être très sympa.
Alors, de mon côté, je vous propose un petit peu plus tard une chronique décalée sur l'actu et sur des infos qui m'ont interpellé au cours de ces dernières semaines. Les copains d'abord reviennent dans un instant. On écoute tout de suite Queen avec Bohemian Rhapsody.
A tout de suite.
À tout de suite.
Ce soir, vous écoutez Les copains d'abord sur Agora Côte d'Azur. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law. Anyway the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Didn't mean to make you cry.
Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Les copains d'abord. David dans Voyage au bout des mots.
Napoléon naquit à Ajaccio, passe sa jeunesse dans des écoles de guerre où il apprend à lancer des boulets de pétanque. Il sera très fort et ne sera jamais fanny, quoique embrasser des fesses, il connaissait. Puis il se tire ailleurs, en Italie où il bat la campagne. Il gagne la bataille de Ravioli contre Giovanni Rana, puis s'offre un gros maringo et rentre victorieux dans Milan pile pour la Fashion Week. Il épouse Joséphine de Beauharnais, une femme magnifique qui le harasse souvent. Nymphomane, elle prendra un amant au bout d'à peine un an de mariage, un soldat qui lui fera l'amour en hussard sur le toit. Il persuade ensuite le directeur de porter la guerre en Égypte. Au lieu de prendre l'Orient Express, qui ne faisait pas de tarif entreprise, il quitte Toulon avec le Charles de Gaulle et parvient à échapper à la poursuite de la flotte britannique suite à sa balade de Melody Nelson. Bonaparte se dirige vers le Caire et sort vainqueur de la bataille des pyramides, où il défait les mamelons qui, il faut le dire, était un peu cavalier. Tout cela grâce à l'artillerie de gros calibre de son grognard Groco Siffredi. Il se déplace ensuite en Syrie. Il se déplace ensuite en Syrie pour serrer la pince de Bachar el-Assad. Cet épisode est raconté dans l'excellent album de Tintin, Le crabe aux pinces d'or. Ce dernier était un peu sa tête de turc. De retour dans la capitale égyptienne, il est reçu dans sa chambre par 8 femmes. Osons, dit-il, sûr de ses capacités sexuelles. Il demande alors s'il n'y en a pas plus. Son aide de camp débité lui dira, hélas, les kérottes sont cuites. Rentré en France, il devient l'un des 3 consuls avec l'aide de Jean-Louis Murat, qui lui chantait souvent « Si je devais manquer de toi », tellement il était fan de ce dernier. Napoléon Ier, jaloux de Bokassa, est sacré empereur. Il couronne son épouse, qui devient alors l'impératrice Joséphine, son ange gardien. En 1805, face à la 3e coalition, l'Empire contre-attaque. Napoléon commence la campagne contre la viande d'Autriche. Après avoir caressé le barin, l'empereur pousse son adversaire Karl Mack à capituler. Ce dernier consacrera le reste de sa vie à écrire un petit livre qui n'intéressera pas grand monde a priori, le Manifeste du Parti communiste. Napoléon, qui avait du nez, et pour l'anecdote qui aimait chanter dans sa baignoire hydromassante, remporte des batailles à Austerlitz, sous le soleil exactement, et il n'a pas changé. Mais à partir de la fin de l'année 1807, la mainmise de Napoléon sur l'importation de la paella garbite déclenche la guerre d'Espagne. Un conflit brutal où il perdit les 2 oreilles et la queue, et qui affaiblira l'Empire de manière importante. C'est à la suite de cette guerre que Napoléon dira « J'ai guerniqué qu'à Guernica avec sa belle de Paris. » En 1812, des tensions croissantes entre la France et la Russie aboutissent à l'invasion du territoire russe. Cependant, la campagne franco-russe est un flanc et se révèle catastrophique pour la Grande Armée. Les Russes utilisent la tactique de la terre brûlée. Napoléon, lui, préférait jouer sur terre battue, où il était d'ailleurs assez bien classé. Dès le lendemain de l'entrée des troupes françaises dans Moscou, les Russes, mauvais perdants mais amateurs d'alcool, on les surnommait les Moscow Mules, incendient la ville. Lorsqu'ils donnent le signal de la retraite à 64 ans, l'hiver est proche. Le froid et la neige provoquent d'effroyables pertes blanches, surtout chez les femmes. La grande armée tourne cosaque et elle est détruite. Toutefois, quelques survivants très catholiques suivront l'abbé résignant. Suite à tout cela, la France est envahie par les coalisés et l'empereur abdique. Il est par la suite exilé sur l'île d'Elbe, car l'Elbe est plus verte ailleurs. Cocufié, il décide de porter le bicorne. Se sentant un peu à l'étroit, il débarque à Golfe-Juan le 1er mars 1815. C'est la reconquête du pouvoir par Napoléon, après sa remontada vers Paris, en passant par Grasse, Saint-Vallier, Escragnol, Serrano. Cette période est surnommée injustement le vol de l'aigle, alors qu'il était monté à pied. Il décide que ces 100 jours seront un signe d'apaisement entre le gouvernement Borne et lui-même. Le pire est à venir. Napoléon est devenu écologiste et pacifiste, après avoir vu le géant vert faire du pop-corn pour Greta Thunberg. Il fait savoir aux puissances alliées qu'il reconnaît le traité de Paris qui crée le club de la capitale, mais en vain. Les alliés n'acceptent pas ce club en Champions League et reprennent les armes contre la France. L'armée napoléonienne est finalement défaite contre le groupe ABBA, qui gagne l'Eurovision grâce à la chanson Waterloo. Il choisira alors l'exil fiscal à Sainte-Hélène. Alors quel héritage a laissé Napoléon ? Il a créé la route éponyme et a été le premier président du comité du tourisme azuréen. À Sainte-Hélène, seul sur le sable, les yeux dans l'eau, il tombe sur un roi qui devient sa voisine. Il dépose sa marque et gagne du pognon sur du cognac, des cuisinières, des casseroles, pour finalement produire un spectacle sur sa vie chanté par Serge Lama. Ce n'était pas encore l'heure des comédies musicales à succès. Il finira donc ruiné et mourra empoisonné après avoir mangé de la pâte à tartiner remplie d'huile de palme. Bravo.
Bravo. Bravo. On est très fiers d'avoir dans l'équipe un historien.
L'histoire avec le petit H.
C'est ça. Vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur. On revient dans un instant.
J'aime te surprendre, te sentir dérouté. Je m'amuse à tout fendre quand tu te mets à douter. J'aime que ça parte du ventre et du bassin. Je libère mon centre de son dessin. Mon instinct est mon phare, mon labeur contrôle les divagations de mes pensées. Je connais bien mes termes et je sais comment me dépasser. Ça part du ventre et du bassin. Je libère mon antre de son destin. Je suis de celles qui nagent à contre-courant, qui refusent le sens du vent, qui refusent d'être la réplique de la réplique de la réplique. Celle que personne ne peut attraper, ni tenter d'emprisonner, sans que je réplique, que je réplique, que je réplique. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho. Cuando una mujer se afianza, esto te cierra la boca. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho. Qué pequeño estás sin tu ejército atrás. J'aime me suspendre au fil de tes pensées. Je m'amuse à le tendre, le dénouer, le couper. J'aime que ça parte du ventre et du bassin. Je libère mon antre de son destin. Mon flair et mon phare, mon instinct presque sorcier, ma volonté peut effaroucher. Je déjoue le hasard et je cherche comment le provoquer. Ça part du ventre et du bassin. Ça libère mon centre de son destin. Cierra la boca. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho. Qué pequeño estás sin tu ejército atrás.
Dans Les Copains d'abord, Carole et Hassen dans Un soir, un destin.
Toi, Carole. Et bienvenue à notre marraine de l'émission Les Copains d'abord, qui prend absolument tout son sens pour cette grande première, puisque justement j'ai la chance de te compter parmi mes amis.
Eh bien, ravie d'être là.
Alors, à moins d'habiter sur notre planète, tout le monde connaît aujourd'hui l'entreprise Gallimard pour ses parfums. Mais est-ce que tout le monde connaît Chantal Roux, qui est pour eux, je le rappelle, la chef d'entreprise de cette société familiale? Alors, vous l'aurez compris, nous allons ce soir nous intéresser à son parcours avec une petite série de questions. Et pour commencer, c'est Hassen qui s'y colle.
Bonsoir Chantal.
Bonsoir Hassen.
Écoute, comme c'est une émission de jeunes, donc tout le monde se tutoie ici.
Ah ben, il n'y a pas de problème.
Ça ne dérange pas.
Ah, pas peur, non, je suis là.
Merci, ouf. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous raconter dans les grandes lignes ton parcours depuis la Lorraine natale jusqu'à ton arrivée à Grasse? Et peut-être nous raconter comment tu as rencontré ton mari, PDG de Gallimard, Jean-Pierre Roux, qui a bien évidemment été un tournant dans ta vie et bien des égards.
Eh oui, effectivement, j'ai atterri sur la Côte d'Azur il y a 40 ans, 42 ans, puisque 42 ans de mariage cette année.
Bravo, donc, bravo. Tu
ah, oui, merci. Bravo. Oui, je suis devenue un dinosaure. Bravo. Un dinosaure de grâce. En tous les cas, ce parcours que j'ai eu sur la Côte d'Azur est assez atypique, puisque effectivement, en fuyant la Lorraine, à l'époque, en pleine crise d'adolescence, je rêvais de voir des hommes bleus à l'époque, et j'étais très naïve. Parce qu'à l'école, on nous avait appris qu'il y avait des hommes bleus. Et pour moi, les hommes bleus ne pouvaient venir que de la Côte d'Azur.
C'était la police, peut-être.
Parce que le mot azur allant avec le mot bleu, je m'étais dit, ben allez hop, je vais descendre sur la Côte d'Azur et je vais essayer de rencontrer des hommes bleus. Sauf que quand je suis arrivée sur la Côte d'Azur, il n'y avait que du blanc. Et donc là, j'ai commencé, et puis voilà, j'ai commencé comme étudiante. Je travaillais avec des enfants qui étaient handicapés. Je leur apprenais à parler à travers les ballons, avec la vibration du son. Donc c'est un métier qui m'intéressait beaucoup, qui m'interpellait beaucoup.
Sauf que je suis tombée gravement malade. Donc, au bout d'un an, quand je suis ressortie, eh bien, ma vie avait pris un autre tournant et donc je ne savais plus du tout ce que j'allais faire. Je me voyais plus du tout enfermée entre quatre murs. Et de là, ben, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire et quelle est ta place maintenant ici sur la Côte d'Azur, alors que ma famille était en Lorraine. Et donc, ben, j'ai commencé par faire des marchés. C'était à l'époque, c'était une époque bénite, puisque c'était la mode des premiers t-shirts il y a 40 ans, 45 ans.
C'est drôle.
Et donc, qu'est-ce que je faisais? Je partais en Italie acheter des t-shirts que je revendais à la sortie des campings. Et donc,
qu'est-ce qu'il y avait marqué sur le t-shirt?
C'était les t-shirts de toutes les couleurs. Et quand je passais à la frontière, les Italiens m'en prenaient quelques-uns au passage et me laissaient passer avec mes t-shirts. Donc, c'était, voilà, on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. Hein, le monde a changé.
Le fameux cartel des t-shirts.
De 26 000. Les marchés, grosse bronchite, fallait se lever très tôt le matin, très difficile. Entre temps, je continuais mes études. En plus, j'avais des amis qui avaient un restaurant, je les aidais, mais alors là, c'était pas gagné parce que la première entrecôte, elle est partie sur les genoux du client. Donc, je me suis dit, non, ça me fait pas. Et donc, j'ai commencé à regarder autour de moi parce que je suis d'une nature très curieuse. Et je me suis rendu compte que dans les hôtels, on voyait des dizaines, trentaines de dépliants qui traînaient sur les comptoirs. Et donc, j'étais déjà très avant-gardiste, hein, je répète encore, même si ça me rajeunit pas. C'était il y a 40 ans. Et donc, j'étais un peu offusquée de voir tous ces papiers sur les comptoirs. Et donc, j'ai ramassé tous ces papiers. J'ai regardé quelles étaient les entreprises qui travaillaient avec. Et j'ai vu qu'il y avait Marineland, il y avait le musée de l'automobile, il y avait Gallimard, il y avait plusieurs entreprises comme ça. Et donc mon idée était de les contacter, de les réunir. Et c'est ce que j'ai fait. Tous les chefs d'entreprise m'ont rejoint à l'hôtel Montfleury à l'époque. Et donc je leur ai proposé de faire un document unique et de n'avoir qu'une seule personne qui leur distribuait les documents. C'était moi.
Génial, c'est culotté, mais c'est chouette.
Et voilà, et c'était déjà avant-gardiste, puisque maintenant on est dans tout ce qui est protection au niveau des papiers, etc.
RGPD.
Et puis, alors donc du coup, ben voilà, j'ai très bien gagné ma vie, puisque les sept entreprises à l'époque j'avais un salaire versé par toutes les entreprises avec lesquelles je travaillais, et c'est comme ça que j'ai démarré ma vie sur la Côte d'Azur. Et puis entre deux, je faisais des soirées avec des amis. Et puis un beau jour, au milieu de tout ça, il y avait ce fameux Jean-Pierre Roux, ce fameux JP.
Tellement t'as eu du bol parce que t'aurais pu te marier avec Monsieur Marineland.
Ah ben oui, mais enfin, tous les paquements qu'il y avait à l'époque, c'était pas garanti.
Donc,
qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré mon mari. Ça ne s'est pas fait tout de suite. T'as une génération où les femmes se faisaient attendre.
Sérieuse.
On n'était pas dans la précipitation. Et donc, un jour, les choses sont arrivées comme elles devaient arriver. Je suis tombée amoureuse, il est tombé amoureux. Donc, c'est comme ça, voilà. Donc, du coup, je rencontre un homme qui est parfumeur. L'histoire s'est créée et c'est une belle histoire olfactive et d'amour qui dure depuis 42 ans, mois de décembre. Et nous avons des enfants, des petits-enfants, voilà.
Quel parcours. Alors Chantal, j'aimerais que tu nous décrives en quelques mots les défis que tu as dû relever dans l'entreprise familiale Gallimard et que tu puisses nous dire les compétences et les atouts que tu as pu avoir dans ta vie qui t'ont particulièrement aidé dans ce contexte.
Ah, c'est une question qui n'est pas est si facile à répondre, mais enfin bon, les compétences, je pense que au départ, c'est la curiosité. On peut pas avoir des compétences si on n'est pas curieux de ce que l'on fait. Et ensuite, c'est la réflexion. J'ai appris ça, j'ai vu ça. Qu'est-ce que je peux en faire? Donc, et puis après, au niveau de l'entreprise, c'est de voir. En fait, il n'y a pas tellement. J'ai pas cherché. C'est la vie m'a amené les choses. Alors peut-être justement, comme je le soulignais à l'instant, la curiosité a fait que je me suis ouverte à certains projets. Par exemple, j'ai créé un champ de fleurs. C'était un défi de créer un champ de fleurs. C'est le 30 ans au mois de mai l'année prochaine où j'ai créé ce champ de fleurs et j'étais la première femme, même dans les Alpes-Maritimes, à recréer à l'époque un champ de fleurs. Et quand j'ai fait ça, c'était la petite Bourge Gallimard. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer un champ de fleurs. Et j'ai entendu des blagues, des rires, etc. J'ai continué mon chemin. Et effectivement, j'ai failli abandonner. Parce que vous savez, quand on a des rêves, quand on part sur des rêves, il y a le rêve, il y a la réalité, et puis il y a les possibilités.
Exact.
Et bien, le rêve, je l'avais, L'envie, je l'avais. Par contre, ce qui me manquait, c'était les possibilités. Parce que je venais d'un... Ben voilà, on va parler de la Lorraine. Je venais de la Lorraine. Et en Lorraine, lorsque vous vouliez un tracteur, vous alliez voir le voisin. Vous lui disiez, tiens, tu me prêtes ton tracteur. Ce soir, tu manges des patates avec du lait. Et puis, ou des cartoffels, comme ils appelaient ça. On mangeait les cartoffels et l'affaire était jouée. Ici, trouver quelqu'un déjà qui a un tracteur, c'est improbable. Des cartoffels, peut-être aussi. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, comment je vais faire pour trouver ce tracteur? Eh bien, tout simplement, alors le louer, c'était faramineux. Les assurances demandaient quelque chose comme 35 000 francs à l'époque pour déplacer un tracteur, parce qu'il n'y en avait pas dans le coin. Et donc, je suis rentrée à la maison et j'avais mon fils, Stéphane, qui aujourd'hui est le PDG de l'entreprise. Bien, Stéphane, quand je suis rentrée, je lui ai dit, écoute, tu vois, les adultes ont des rêves, les enfants ont des rêves, les adultes aussi. Eh bien, là, j'avais un rêve, mais je peux pas le faire. C'est impossible pour moi. Et mon fils, au moment de s'endormir, il m'a dit, maman, ce que tu fais là-haut est tellement beau que tu dois pas abandonner. Et ça m'a trotté toute la nuit dans la tête. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? À 5 heures du matin, je me suis levée et je suis remontée à Gourdon et sur ce terrain familial où j'avais ce rêve utopique de créer ce champ de fleurs. Eh bien, lorsque je suis arrivée à 5 heures du matin, tout était labouré. Et là, pendant quelques secondes, je suis restée sans voix en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pensé que c'était les sangliers, mais il aurait fallu peut-être une centaine de sangliers pour voir tout ça. Et en fait, c'est un monsieur du village, monsieur Milo, qui a su ce que je préparais et qui est venu me voir en me disant, votre idée, ce que vous voulez faire est tellement extraordinaire. Il m'a labouré le champ toute la nuit avec un petit tracteur de 1 mètre.
Waouh, c'est trop gentil.
Donc c'est un des défis que j'ai eu. Et ce défi aujourd'hui est toujours là puisqu'on fête les 30 ans l'année prochaine avec Sacha Dissel qui a été le parrain.
Ah oui.
Donc ça a été une très belle aventure. Voilà, ça c'est un de mes défis. Et le deuxième défi à Grasse, c'est d'avoir remis en avant le cimetière qui appartenait aux petites sœurs des pauvres, qui était à l'état d'abandon et qui n'avait pas de nom. Et donc, je me suis adressée à notre maire très dynamique que vous connaissez tous, Jean Biot. Je me suis adressée à lui et je lui ai dit, j'aimerais remettre ce cimetière. Et tout le monde a été surpris. Jérôme y a cru tout de suite. Il m'a dit banco. Et j'ai remis ce cimetière en état. Je peux vous assurer que j'ai travaillé la nuit avec un ami. On était un copain. Bon, on n'était pas tout seul. On avait aussi une bonne bouteille de rosé. On était dans le cimetière. D'ailleurs, vous pouvez un jour aller le voir. On a refait chaque tombe. Et donc, quand tout a été fini, eh bien, je suis retournée voir le maire en lui disant, maintenant, il faut baptiser le cimetière. Monsieur le maire m'a dit oui, ok, comment on va faire? J'ai dit, écoutez, on va l'appeler Jeanne Jugan, puisqu'à l'époque, les petites sœurs étaient sont toujours, d'ailleurs, très proches de Jeanne Jugan. Et donc, j'ai réhabilité un cimetière. Je crois que ça n'arrive pas souvent à quelqu'un, et en plus baptisé. Donc, je suis très fière de ça.
Oui, on a cru comprendre, en fait, que tu as quand même deux côtés complètement différents. Tu as un côté très sérieux, très social, tu fais beaucoup de social. Et en même temps, tu as un côté un peu fou. Moi qui te connais très bien, un peu très jeune, très fou, très décalé. Comment as-tu réussi à établir ta propre identité au sein de la famille Gallimard, jusqu'à aujourd'hui devenir une figure emblématique de la marque?
Effectivement, comment j'ai trouvé ma place? Ça n'a pas été facile. Alors, j'imagine pour les gens qui viennent d'un pays étranger, c'est encore pire. Pour moi, qui venais simplement de la Lorraine, il a fallu effectivement au début, et puis alors, attention, 40 ans, c'est énorme, hein, c'est une génération. Donc, je vous parle il y a 40 ans en arrière, où tout était très fermé. Grasse était beaucoup plus fermé qu'aujourd'hui. Par exemple, une réunion comme nous sommes là aujourd'hui, avec des gens sérieux et parfois un peu déjantés aussi, eh bien, ça ne se serait pas vu.
Ne me regarde pas quand je dis ça.
Je regarde avec assistance. Et donc, c'est vrai que le fait de rentrer dans une famille qui était purement grassoise, moi je suis Lorraine, je ne suis pas grassoise du tout, il a fallu que je laisse le temps faire les choses. En fait, je me suis imposée tout doucement, et puis comme je suis quelqu'un de très libre dans mes actions, eh bien j'avais cette liberté à chaque fois de faire. En fait, j'étais un peu comme on appelle ça, pas un chien fou parce que j'aime pas tellement ce terme, mais j'étais un électron libre, voilà, plus exactement. J'étais l'électron libre de la famille avec tout ce que cela peut comporter, mais un électron libre qui savait toujours où elle devait aller. Donc, ça me donnait un côté à la fois déjanté et un côté sérieux.
C'est une belle définition de toi-même.
Ouais, merci.
Et d'ailleurs, on sait que c'est pas facile d'avoir une gestion d'une entreprise familiale. À ce propos, on aimerait bien savoir quelles sont tes valeurs et des principes qui te guident et qui te permettent d'avoir ta propre place en tant que mère, épouse et chef d'entreprise.
Moi, j'aime oublier que je suis la femme chef d'entreprise parce qu'en fait, c'est un accompagnement familial que j'ai eu avec mon mari et que j'ai eu avec nos enfants. On a 3 enfants, hein. Donc c'est plus un accompagnement familial dans ma tête, dans mon cœur, d'être là au bon moment, au bon endroit. J'aime les gens, j'aime la rencontre, j'aime la déconnade, j'aime boire, j'aime manger. Donc je vais là où la vie elle me porte. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, je suis restée un an à l'hôpital. Quand on reste un an à l'hôpital sans aucune visite, on a une perception de la vie qui est complètement différente. Et ça m'a donné une force. Donc cette force-là, je l'ai puisée, mais en même temps, je pense que ça m'a aussi apporté beaucoup d'ironie sur les gens, sur la vie. Et donc n'hésitez pas à m'inviter, hein, vous verrez, une soirée, c'est pas mal.
On peut te louer, en fait.
Ouais, soirée. Voilà. Oui.
Parfait. Du fait de l'expérience que tu as acquis depuis très longtemps, quel conseil donnerais-tu à toute personne qui aimerait se lancer dans le parfum ou peu importe, hein, ou autre chose?
Dans une entreprise.
Entreprendre en tout cas.
Voilà. Entreprendre. Alors, je ne pars pas du principe que j'ai réussi. Je pars du principe que, en fait, il y avait des courants et que si aujourd'hui, j'ai eu d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, une petite jeune à mes côtés et je lui ai dit simplement ceci. J'ai dit aujourd'hui, tu as appris à travailler avec moi. Il y a une chose que je te demande de garder toute ta vie. C'est de rester humble, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi que tu fasses dans ta vie, même de grand, reste humble, n'oublie jamais d'où tu viens, et surtout, surtout, il faut avoir de la volonté et ne jamais rien lâcher. Parce que parfois, on veut faire quelque chose aujourd'hui, et ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Attends 1 an, 3 mois, 6 mois, peu importe. Si tu as envie de le faire, mets-toi, ne te crée pas des barrières, mais vas-y. Ça, c'est le plus important.
C'est super inspirant.
Ouais, bravo. Je sais aussi que dans ton parcours, forcément, tu as rencontré beaucoup, beaucoup de personnalités. Et il me semble qu'il y en a quelques-unes qui t'ont particulièrement marqué et touché.
Ah oui. Oui. Alors, j'ai Sacha Distel qui m'a marqué. J'ai Jean-Paul Belmondo qui m'a beaucoup marqué. Alors, Sacha Distel, sa gentillesse, son humour. Il avait beaucoup d'humour, sa gentillesse. Et j'ai été très marquée aussi par Jean-Paul Belmondo, qui, ceci dit, lorsqu'il m'a fait la bise, je peux dire que c'est l'homme qui m'a le plus marquée au niveau du toucher de la joue, parce qu'il avait une peau de pêche. Mais c'était extraordinaire. Et Jean-Paul Belmondo m'a beaucoup marquée lorsqu'il est monté avec moi et sa compagne. Nous sommes allés au Champ de Fleurs. Et comme il ne pouvait pas sortir de la voiture, je suis allée lui chercher une brassée de lavande. Et lorsque je lui ai ramené, j'ai une photo de ça, où il a un sourire juste extraordinaire. Et vous savez, dans la vie, les rencontres avec les gens, c'est pas le temps, c'est la seconde parfois. Et là, il y a eu une seconde absolument magique à ce moment-là, dans mes champs de lavande. Et ça, pour moi, c'est inoubliable.
Magnifique. Franchement, j'en ai la chair de poule. Oui.
Et pour conclure, quels sont finalement pour toi les aspects les plus gratifiants de ton parcours, que ce soit personnel ou professionnel chez Gallimard?
Je pense les rencontres que j'ai pu avoir, c'est énorme. Je crois que presque il faudrait que j'écrive un livre un jour pour parler de toutes ces rencontres. Ce qui a été gratifiant aussi, ce sont aussi les problèmes. Alors ça peut peut-être vous surprendre, mais les problèmes m'ont appris à faire face à des situations et à grandir. Et à chaque fois que j'avais un problème et que je grandissais, j'arrivais à quelque chose. Donc pour moi, c'était très gratifiant ça.
Eh bien écoute Chantal, je propose maintenant de changer un peu de sujet. Et là, je propose qu'on découvre maintenant la vraie Chantal. Les personnes qui te connaissent s'accorderont de dire que tu es une femme au grand cœur. Celles qui te connaissent encore pas ne savent pas que tu as un côté Pierre Richard. Et moi, je le connais, ce petit côté Pierre Richard. Alors, je sais aussi que tu fais énormément de réceptions chez toi, toujours avec un grand cœur. Et je sais qu'avec ce petit côté Pierre Richard, si je te dis l'anniversaire de ton mari Jean-Pierre, quelle histoire tu nous racontes?
Exact. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis très gaffeuse, que je fais beaucoup de bêtises, que je m'assieds là où il faut pas s'asseoir, que lorsque je vais chez le médecin, je m'assieds à sa place. Et c'est le patient.
Et c'est toi qui fais le pronostic, du coup.
Voilà. Donc, oui, c'est moi presque qui fais le pronostic. Donc, c'est vrai que je suis très gaffeuse et j'ai effectivement un jour pour l'anniversaire de mon mari, nos enfants étaient tout petits et j'ai voulu leur faire la surprise de leur faire un feu d'artifice. Donc j'avais acheté le feu d'artifice où il y avait une trentaine, vous savez, de fusées. Et donc je leur ai demandé de regarder le ciel. il s'assied et il regarde le ciel.
Ouais.
Et je leur dis surtout, surtout, regardez bien, observez bien ce qui va se passer. Et d'un seul coup, on entend pan, pan, pan. Et là, moi, je regarde et je vois rien.
Au ciel.
Et là, j'entends mon mari qui dit « Mon gazon, mon gazon !» En fait, il y avait un cratère dans le sol.
Donc, les fusées étaient parties du mauvais côté, en
j'étais
fait.
Pas, j'avais dit dans le mauvais sens.
Dans le mauvais sens, ouais.
Et puis, un jour, j'ai, pareil, pour l'anniversaire, j'adore quand je fais des anniversaires, des choses comme ça, des fêtes, d'amener toujours le côté insolite. Parce que le côté insolite, c'est ce que les gens vont garder et c'est ce qui vont les amuser. Alors, un jour, j'étais amie avec Arlette Grusse et donc je suis allée la voir en lui demandant de m'amener des chameaux à la maison et elle m'a amené deux chameaux pour l'anniversaire de mon mari sauf que mon mari les a pas vus rentrer, puis mon mari adore son gazon très vert, hein.
Voilà.
Il a pas vu les chameaux rentrer et à un moment donné tout le monde dans la salle dans la pièce riait et mon mari s'est retourné et à droite il avait un chameau et il a fait oh! Et il a tourné la tête à gauche et il a eu la même chose. Donc c'était très drôle et c'était un moment magique aussi.
Tu lui as fait une belle surprise pour son anniversaire.
Oui.
T'es une récidiviste pour le gazon.
Ah bah c'est oui,
entre les feux d'artifice et les chameaux.
Ah tout à fait, complètement.
Depuis, Jean-Pierre a mis en place un gazon artificiel. Donc
c'est la sécheresse qui va nous obliger à le faire, ça continue.
Pour continuer un peu cette belle histoire, en tant que Lorraine festive... Tu as participé à de nombreux carnavals.
Oui.
Donc, dis-moi si je me trompe, quel a été ton plus drôle déguisement?
Oui. Écoute. Alors, j'étais petite et puis j'ai revu ce monsieur 30 ans après, qui lui m'a reconnue alors que, voilà. En fait, j'étais gamine, j'étais au Sacré-Cœur de Montigny-les-Messes et chaque année pour la fête Dieu, on faisait des fêtes. Et mon grand-père m'avait habillée en coquelicot. C'est-à-dire que j'avais un collant marron, j'avais une jupe verte, le t-shirt qui était rouge, et j'avais dans les cheveux deux petites antennes rouges pour montrer avec des points noirs, pour montrer que je devais danser devant tout le monde. Je devais danser en montrant que j'étais un coquelicot. Et le hasard bien a voulu.
Bien sûr, Chantal.
Je ressemble toujours à un coquelicot d'ailleurs. Et le hasard a voulu que je retrouve un monsieur 30 ans après, lors d'une visite d'un appartement qu'on voulait louer. Et le gars se tourne vers moi et me dit « Vous êtes Lorraine ?» Parce que vous savez que les Lorrains, on les reconnaît à une seule chose. Hein.
Dites-nous. Mirabel.
Non.
À la Quetch.
Non. Au I.
Ah oui,
ah oui, oui, tout
oui,
à fait.
La Lorraine,
oui,
c'est
Chantal.
Le
clic.
Je taquine souvent Carole qui, pour dire oui, elle dit oui.
Bah, ben voilà, oui, tout à fait. Et Carole, se reconnaît les Lorraines. Oui,
oui.
Donc, et ce monsieur, en parlant comme je disais oui, il m'a dit, mais vous êtes Lorraine. Et j'ai répondu,
facile.
Oui, oui, oui. Et donc, il m'a dit, mais vous n'étiez pas à l'école du Sacré-Cœur. J'ai dit oui.
Oui,
oui. Et donc, c'était très drôle parce que lui m'avait reconnu. Donc,
et pourtant, t'étais plus en coquelicot.
Et il se souvenait. Et c'est lui qui m'a rappelé que j'étais en coquelicot.
Ah, il te l'a rappelé.
C'est lui qui me l'a rappelé. Donc, voilà.
C'est génial.
Tu sais que le coquelicot fait partie de la famille des
pavots. Des pavots. Ah, ah, ah.
Et oui.
Tant que c'est pas pavot.
Il en reste quelque chose, d'ailleurs.
Alors, Chantal, pour presque clôturer cette interview qui nous amuse beaucoup, je propose de faire un quiz et de te confronter à la team. Alors, donc, c'est un quiz lorrain. Pour que tu sois confronté à la team pour voir s'ils sont toujours aussi nuls ou si ça va un peu mieux. Alors, la team, qu'est-ce qu'une clanche?
Alors, bah, moi, je le sais.
Ah toi
c'est une planche.
Oui, côté je ne vais pas souffler là.
Ah, bah, si, parce que
alors, la clanche, c'est à moi de répondre.
Ben, Laura, vas-y, dis, Chantal dira si c'est ça.
Une poignée de porte.
C'est ça.
Bravo.
Bravo, bravo Laura.
Merci.
Qu'est-ce qu'une schlappe?
Une bière,
Ouais, ça pourrait, hein. Ça sera lancé, ça.
C'est vrai que ça pourrait.
Quand on est fatigué, c'est l'idéal.
Personne ne sait.
On met ses schlappes et on boit la bière.
Voilà.
C'est pantoufles.
Alors,
c'est
ça. Bah, c'est les pantoufles.
C'est les pantoufles.
Alors là, Chantal, tu vas aimer cette question. Qu'est-ce qu'une schneck?
Une saucisse.
Eh non.
Ah. Et en plus, il y a deux versions.
C'est les cousins de Shrek.
Alors, la schneck, c'est quelqu'un dont vous êtes amoureux. Alors, on dit, oh, tu es ma schneck.
On peut être amoureux d'une saucisse aussi. Hein,
ouais, mais la schneck et la saucisse, ça va bien
mais
ensemble.
Mais la schneck, c'est également le croissant, l'escargot. Ouais. Parce que schneck en allemand ou en patois lorrain, c'est un escargot. Et en fait, au lieu d'acheter des croissants, on demande des schnecks, nous. D'accord. Alors, quand je suis arrivée sur la Côte d'Azur, je voulais acheter des schnecks. Et tout le monde me regardait bizarrement.
Je l'ai faite aussi, celle-là.
Alors, que signifie le mot schlinguer?
Bah, puer, schlinguer.
Enfin, vous connaissez quand même schlinguer.
C'est au fou.
Bon, ça va. Et le dernier, qu'est-ce qu'un schlouk?
Ah, le schlouk, tout le monde adore ça.
Ah ouais.
Ah, c'est quelque chose qui se boit, du coup.
Et voilà.
Tu schlouques.
Une Mirabelle.
C'est une Mirabelle.
Je prends un point ce soir.
Et voilà.
Bon, en tout cas, c'est quand même Chantal qui a gagné. Hein. Merci beaucoup d'avoir participé.
Merci Chantal.
Merci. Merci à vous.
Ton livre.
Merci et plaisir de vous avoir rencontré.
Ce soir, vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
Les copains d'abord, on revient tout de suite après le titre qui va suivre, les Cranberries avec la chanson Zombie.
dans Les Copains d'abord. Thierry dans L'Instant Décalé.
Et tout de suite, on retrouve la chronique de Thierry. Et je crois savoir que tu souhaitais revenir sur une date d'anniversaire, mon cher Thierry.
Absolument, Hassan, car nous fêtons cette année les 15 ans de la disparition de Carlos, non pas le terroriste sanguinaire, hein, mais plutôt le nôtre, le Frenchie, celui qui a commis de nombreux attentats également, mais auditifs, avec des tubes comme Big Bisou et le Tirli Pimpon. Alors, vous vous souvenez, hein, Tirli Pimpon sur le Chihuahua. Tirli Pimpon avec la tête, avec les bras. Tirli Pimpon, un coup en l'air, un coup en bas. Des paroles qui nous avaient fait comprendre très tôt pourquoi Carlos n'avait jamais siégé aux côtés de Jean d'Ormesson à l'Académie française. Notre Carlos, qui était également un terroriste vestimentaire avec ses petites liquettes à fleurs, puisque toute sa vie, il avait cherché à copier Tom Selleck dans la série Magnum, créant un mimétisme quasi parfait, ce qui fait qu'à un moment donné, on ne savait plus vraiment lequel des deux chantait Papayou et lequel des deux conduisait la Ferrari rouge.
Et sans transition, la SNCF va lancer plusieurs nouvelles liaisons en train long pour fin 2024.
Ils l'avaient dit dans leur slogan, à nous de vous faire préférer le train. Eh bien les gars avaient une mission, concurrencer le transport aérien, ils les ont trouvés, ils lancent les trains lents. Enfin, au sens figuré, parce qu'au sens propre, s'ils lançaient vraiment les trains, ça nous permettrait peut-être d'arriver à l'heure. Alors, je sais pas s'ils se sont fait aider par un publicitaire français qui ressemble à une orange, là. Comment il s'appelle celui qui est tout bronzé, là, toute l'année? Jacques Séguéla. Voilà. En tout cas, véritable coup de génie qui me fait dire que ça fait quand même bien longtemps qu'on a quitté le siècle des Lumières. Donc,
un voyage de combien de temps?
12 heures. Un voyage de 12 heures pour te faire un petit Paris-Marseille avec le confort qu'on imagine. Tu vois, David, tu pars de Paris, David, un exemple, hein. Tu ressens la Brad Pitt. Admettons, tu ressens la Brad Pitt et tu pars de Paris. Eh ben, 12 heures après, tu arrives à Marseille, eh ben, tu ressembles à Stephen Hawking tellement les sièges sont dézingués.
Et puisque...
Merci de rire.
Un article est paru il y a quelques jours mentionnant un nombre important de séparations après que des familles aient accueilli des réfugiés ukrainiennes. C'est quoi ce truc?
Alors, loin de nous dans l'équipe, l'idée de juger ces épouses à l'étroitesse d'esprit, hein, qui n'ont pas su apprécier l'humanisme soudain de leur mari désireux de tendre la main et pas que. Donc, mesdames, sachez seulement que vous n'avez pas le monopole du cœur, copyright Giscard d'Estaing. messieurs, si vous êtes tentés par l'expérience humanitaire, sachez que d'ailleurs des prénoms tels que Oksana ou Natalia qui peuvent vous amener à ressentir de l'amour pour votre prochain peuvent aussi se cacher une ex-athlète soviétique du bobsleigh issue des Jeux Olympiques d'Innsbruck en 64. Alors, messieurs, faudra pas vous plaindre si vous voyez débarquer une nonagénaire à la maison et qu'elle fait caca sur votre lit façon Amber Heard.
Et puisque nous parlons de caca, évoquons ensemble le troisième âge.
Ça te va bien.
Oui, parce que je regarde David, troisième âge, donc il est là en face de moi. Qui revient des toilettes.
Hein. Je suis le cinquième incontinent.
Faut bien le dire, ce sont nos vieux qu'on adore et qui s'en sortent le mieux cette année. Et force de constater qu'on a de sacrés exemples, cher Thierry.
Absolument, Lynn Renault a fêté ses 95 ans, Michel Drucker est revenu à la télé, Hugo Frey, 94 ans, a épousé Muriel cet été de 45 ans sa canette. Alors il nous prouve qu'il tient toujours bon la barre, hein, pour ceux qui connaissent sa chanson. Et Muriel est complètement ravi. Alors pour les trentenaires qui nous écoutent et qui souhaiteraient vivre la même expérience qu'Hugo Frey en prenant pour épouse leur cadette de 45 ans, sachez que ça n'est pas encore possible puisque vous n'avez que 30 ans et que par conséquent, alors que je vous parle, votre future femme n'est pas encore née. Alors on a aussi Michel Sardou également, il est reviendu après nous avoir fait ses adieux à faire pleurer les pierres il y a 3 ans pour une ultime tournée. Alors un conseil, hein, ne prêtez jamais d'argent à Michel Sardou puisqu'il ne tient pas ses promesses. En attendant, pour celles et ceux qui ont loupé son comeback, vous pouvez toujours commander sur sa boutique en ligne les produits dérivés avec le t-shirt officiel de l'adieu et même une poupée gonflable à l'effigie de Michel Sardou pour ceux qui souhaiteraient vivre la véritable expérience du concert à domicile.
On a tellement rêvé.
Je peux en avoir une à l'effigie de David ou pas? C'est possible.
On verra ça après.
On n'oublie pas non plus le chanteur, notre chanteur national Renaud, avec sa dernière tournée. Pas celle du bar, bien sûr. Hein, parce qu'apparemment, il fait beaucoup de sport, il fait des bars parallèles. Il faut bien le préciser.
La levée du coude.
Effectivement. Renaud qui revient avec un tour de chant qui nous a étrangement fait penser à l'émission de télé de Nagui, N'oubliez pas les paroles. Hein. Pour apprécier le concert, fallait soit être amateur de cunnilingus pour cette facilité à lire sur les lèvres du chanteur, soit être appareillé d'un dispositif Audica. Alors la prochaine tournée devrait se faire avec Jeff Panaclock, qui après lui avoir enfoncé son bras dans le cul, devrait arriver à lui faire bouger les lèvres pour plus de confort. Mais mon préféré à moi se trouve quand même de l'autre côté de l'Atlantique, c'est l'aventure Joe Biden, Captain America. Joe Biden, c'est le troisième âge décomplexé. À la fin des conférences de presse, quand son service de sécurité l'attend à gauche, eh ben lui, il part à droite. Hein. Quand il a envie de faire pipi, son cerveau dit non, surtout pas, alors que sa vessie dit oui, pourquoi pas. Hein. Et il n'y a pas si longtemps, lors d'une conférence de presse, il a quand même demandé où était Jackie, une proche conseillère décédée quelques semaines plus tôt qui cherchait dans la foule. Alors souhaitons simplement à Joe Biden qu'aux prochaines élections présidentielles, Joe ne se trompe pas d'élection en participant à l'élection de Miss America.
Et pour terminer cette chronique, donc je souhaitais quand même faire un petit clin d'œil, quelque chose, quelques recommandations d'ailleurs, à nos amis chasseurs qui ont parfois la gâchette facile, ainsi qu'à nos amis promeneurs.
Absolument, Hassan, car les copains d'abord, c'est aussi une émission qui se veut de rassembler des gens qui ne veulent pas se piffrer. Hein, j'ai eu l'exemple tout à l'heure en hors antenne avec David qui a carrément désingué toute l'équipe.
C'est entre nous.
Ouais, bon, tout se dit. Alors, on rappelle à nos auditeurs que le gouvernement, cette année, a interdit la pratique de la chasse sous emprise d'alcool afin de tendre vers un 0% d'accident, ce qui pourrait permettre à nos amis chasseurs de gagner en clairvoyance et à nos amis randonneurs de ne pas mourir tout de suite afin de passer Noël en famille.
Oui, on n'oublie personne. C'est bon. 25 au matin, c'est bon.
Ouais. Alors, pour rappel, un sanglier, ça ne fait pas de VTT. Ça ne porte pas de sac à dos non plus. Si vous croyez apercevoir une biche en cuissarde en pleine forêt,
un cochon non plus.
On se dirige plus vers du brésilien ou bien vers Francis Lalanne, cherchant l'inspiration pour son prochain album en regardant les glands tomber. Dernier petit conseil pour nos amis promeneurs, privilégiez les vêtements fluo, équipez-vous d'un gyrophare sur la tête et n'hésitez pas à crier
pour Laura,
je ne suis pas un faisant, je ne suis pas un chevreuil lors de vos dépassements. Si par contre vous avez un bec de lièvre, évitez la randonnée, hein, devant les tribunaux. Le chasseur qui vous a tiré dessus pourrait s'en sortir en évoquant des circonstances atténuantes. L'instant décalé s'est terminé, merci de m'avoir écouté.
Merci Thierry.
Bravo, bravo, Thierry.
Merci Thierry. Merci à toi. Et à tout de suite.
Ce soir, dans Les Copains d'abord, Laura dans Les Insolites du Monde et des Réseaux Sociaux.
Et sans plus tarder, on retrouve tout de suite Laura avec ses Insolites du Monde.
Bonjour à tous, préparez-vous à embarquer dans le tout premier voyage insolite des Copains d'abord. Et pour notre première destination, on commence fort avec une tentative audacieuse de sauvetage animalier qui a mal tourné. Quelque part aux États-Unis, un couple que l'on renommera Danny et Paul a ainsi fini par vivre une expérience aussi inattendue qu'explosive en s'adonnant à de petits plaisirs simples de la vie de façon peu conventionnelle. L'affaire démarre lorsque nos deux acrobates du dimanche décident de partager avec leur petit rongeur une partie de leur activité nocturne. Paul s'arme à l'heure d'un tube cartonné et le transforme en un itinéraire inédit vers les profondeurs inexplorées de son partenaire. Notre petite boule de poil, fascinée par cet étrange spectacle, ne se fait alors pas prier pour pénétrer dans ce tout nouveau monde, décidant même d'y élire domicile un peu trop longtemps.
C'est la horribilis.
C'est moi qui ai validé la chronique. Hein. S'il y a un responsable, c'est moi.
Afin de le guider vers la lumière du jour, son propriétaire craque alors une allumette un peu trop près du tunnel de carton qui s'enflamme rapidement, créant une réaction chimique incontrôlable dès sa rencontre avec les gaz intestinaux de notre pauvre Dany. Résultat, un hamster catapulté, freiné dans son envol par le nez d'un pôle incrédule qui par ailleurs se brise et de nombreuses brûlures intra- et extramuros pour nos trois aventuriers.
Je te cache pas que l'équipe est incrédule aussi. Hein, mais si ça me met à Chantal...
Notre mascotte Chantal.
Alors oui, le talent made in USA, c'est bien connu, mais que les chauvins se rassurent, en France aussi on a bon. Et ce septuagénaire toulonnais nous le prouve à merveille. Guidé par sa gourmandise et par son amour pour l'histoire nationale, il s'est retrouvé au service des urgences de l'hôpital de la ville. Oserais-je vous expliquer la raison? Évidemment.
J'aimerais bien.
On y va.
Papy, ayant fait l'acquisition d'un obus de la Première Guerre, a tout simplement eu la profonde envie de confirmer l'adage « Plus c'est gros, mieux ça passe ». Alors, bien entendu, l'hôpital a été évacué et pour ceux qui se posent encore la question, le jouet de papy aussi. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour une bonne boum.
Alors, quand tu dis papy, tout le monde nous regarde. Bon, c'est ça.
Et s'il nous écoute, on l'embrasse, évidemment.
On embrasse papy, évidemment. Alors, on parle d'âge.
À l'hôpital.
On parle d'âge, mais vous voyez, avec vos si jolis sourires, vous n'aurez jamais le même problème que cette parachutiste en herbe qui, à vouloir croquer la vie à pleines dents, s'est retrouvée édentée en plein vol. La légende raconte que le dentier n'aurait pas souffert. Passons aux animaux. Bon, ok, la transition est brutale, mais au point où j'en suis, on va pas faire la fine bouche.
On confirme tout ça.
En Grèce, un troupeau de moutons s'est invité dans une serre de cannabis médical pour échapper à une tempête. Ils sont sortis de cette arche de Noé nouvelle génération en bêlant comme jamais, puisque brouté n'a jamais été aussi planant.
Rien de personnel là-dedans.
Ah, évidemment, bien sûr que non. Okay. Et pour rester dans le thème de la verdure, direction l'Indonésie, à présent, où un groupe d'intervention de la police nationale a résolu une enquête de longue haleine. Il s'agissait notamment de mettre la main sur des trafiquants de drogue peu scrupuleux et ainsi de leur retirer leurs marchandises pour stopper l'hémorragie. C'est dans ce contexte qu'ils ont eu la brillante idée de brûler 3 tonnes de cannabis, polluant ainsi l'air de toute une ville. Surveiller sa consommation pour ses habitants, ce fut visiblement impossible, mais pour l'homme dont je vais vous parler maintenant, ça aurait été plutôt bénéfique. En effet, attristé par la disparition d'un citoyen turc, le joyeux Luron n'a pas hésité une seule seconde à prendre part aux recherches. Et ceci malgré son degré avancé d'ivresse. Très belle issue, puisque le disparu n'était autre que lui-même et qu'il s'est donc retrouvé. Et à croire que ce phénomène se répand, puisqu'en Islande, une touriste s'est elle aussi investie dans ses propres recherches peu avant. Un joli duo de penseurs. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, parlons mariage. Alors, quand en Asie, un couple soucieux de l'environnement a décidé qu'une montagne d'ordures taïwanaise reflétait le décor idéal pour ses photos de mariage, un autre s'est offert une animation bien originale pour l'arrivée de son wedding cake. Un droniste s'est en effet chargé d'amener le précieux à sa destination. Malheureusement, vous l'aurez compris, il s'est planté. Tandis que la chorale dépêchée sur place chantait à gorge déployée, le superbe gâteau de mariage s'est malencontreusement écrasé sur le groupe d'artistes. Flûte, ça sentait pourtant l'amour à plein nez. Terminons sur une anecdote qui soulève question. Un homme au volant de sa voiture s'est fait percuter par son épouse alors qu'il tentait d'éviter un sanglier. Pas de victime à déplorer en dehors des deux véhicules qui croulent tous deux des jours paisibles à la casse. Moralité, il vaut mieux se prendre un gros porc en pleine face que de finir avec ces deux voitures à la casse.
Merci Laura.
Bravo.
L'émission Les Copains d'abord touche donc à sa fin. Je voudrais remercier déjà notre marraine de la première émission, Chantal Roux. Merci beaucoup.
Merci Chantal. Moi, ravi d'avoir été là.
Merci Laura, merci Carole, merci Hassane, David aussi. Vous avez un petit mot peut-être pour donner vos premières impressions?
Juste, j'ai hâte de revenir le plus vite possible. Voilà.
Tout pareil, avec d'autres invités.
Merci à Agora.
Chantal restera le number one.
Ouais, vivons la prochaine.
C'était génial, bravo.
Merci pour cette première en tous les cas.
On se donne donc rendez-vous au mois de décembre pour une prochaine des Copains d'abord.
À bientôt.
Ciao, ciao.
Les Copains d'abord, présentés par Thierry. Réalisé par Nancy Zottier pour Agora Côte d'Azur. Émission à retrouver en podcast sur agoracôtedazur.fr.